Bonsoir, bonsoir et bienvenue à l'antenne de Radio Galère sur la courte échelle, l'émission anticarcérale de tous les dimanches soirs, tous les dimanches soirs à 19h30 sur 88.4, si vous arrivez à nous écouter par la radio, sans doute que vous le savez déjà. Si vous voulez nous appeler au direct, c'est au 04 91 08 28 10, donc appelez en direct pendant les émissions pour interagir avec nous. Donc à part entre 19h30 et 20h et parfois un peu plus le dimanche soir sur Radio Galère. Pour nous écrire, Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Pour nous écrire par mail, la-courte-échelle@riseup.net. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Aujourd'hui, on est avec Greg.
Salut.
Hello.
Salut.
Syl.
Salut.
Et moi, Liane.
Oui, l'émission d'aujourd'hui, elle va consister en un long entretien qu'on a enregistré en début de semaine avec Asia Zaino, qui nous a présenté son livre qui s'appelle « Des hommes entre les murs », qui est paru chez Agogne il y a quelques années, 2017, si je me souviens bien. Et c'est un livre qui analyse un peu le... C'est des longs entretiens, des interviews, qui analyse un peu la présence de la prison dans la vie quotidienne des Palestiniens. Et comme c'était un peu en rapport avec l'actualité, on a voulu lancer cette interview avec Asia, qui nous raconte son livre, et après qui revient un peu sur la situation actuelle en Palestine et aussi en France depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas. Elle revient sur plusieurs trucs. On voulait vous donner quelques dates pour être sûr dans tout ce qu'elle raconte. Elle parle beaucoup notamment des accords d'Oslo. C'est une sorte de reconnaissance mutuelle entre les deux autorités. Ça a eu lieu en 93. Elle parle aussi de la première intifada, qui a démarré en 87 et qui a débouché sur les accords d'Oslo en 93. Et elle parle aussi de la deuxième intifada qui a eu lieu en septembre 2000. Ça, c'est pour poser un peu des dates. Et elle parle bien sûr du 7 octobre, qui est l'attaque du Hamas, et depuis toute la revanche israélienne qui a lieu, enfin, en tout cas l'armée israélienne. On lance directement l'interview maintenant. Et on revient d'ici une trentaine de minutes pour en reparler un peu.
Bonjour, je m'appelle Asia Zaino. En ce moment, je suis en train de faire une thèse sur la résistance des femmes prisonnières palestiniennes dans les prisons israéliennes et en particulier sur le système pédagogique clandestin mis en place par ces femmes depuis 67 jusqu'à aujourd'hui. Et je fréquente la Palestine depuis 2011. J'ai fait plusieurs séjours de 3 mois, parce que pour des questions de visa, depuis 2011, toujours dans le même village, Nabi Saleh, toujours dans la même famille. Et justement, et le livre, et donc je publiais un livre, Des hommes entre les murs, qui était issu de mon mémoire de master sur les hommes prisonniers, et en particulier dans le village de Nabi Saleh. Et donc, déjà, l'idée du livre, c'était un peu de rendre les témoignages des prisonniers et des quelques prisonnières des différentes générations les protagonistes du livre et pas les considérer comme des sources pour les sciences humaines. Du coup, dans le livre, je fais une introduction où je montre un peu le contexte et puis je laisse plutôt la parole aux personnes de Nabi Saleh qui d'une certaine façon dialoguent entre elles en racontant leur expérience des prisons, les évolutions, les différentes étapes et aussi l'impact de la prison sur la famille, sur les familles des prisonniers. Parce que donc en Palestine depuis 1948, donc depuis la création de l'État d'Israël et l'expulsion des Palestiniens de leurs terres, il y a environ 1 million de Palestiniens qui sont passés par les prisons israéliennes, ce qui est plus ou moins le 40% de la population masculine. Les femmes, tout en ayant participé depuis le début à la lutte contre la colonisation israélienne, elles ont été moins ciblées par les campagnes d'arrestation, mais au moins depuis 67, donc, parce qu'avant, avant, il n'y a pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé de source qui parle d'arrestation avant 67, il y a environ 16 000 femmes qui sont passées par les prisons israéliennes. Et donc la prison n'est pas une expérience marginale en Palestine, mais c'est vraiment quelque chose qui concerne toute la population, directement, indirectement, parce que plus ou moins dans chaque famille palestinienne, il y a minimum un membre qui est passé par les prisons. Et donc c'est vraiment, la prison c'est vraiment quelque chose qui touche toute la population. L'État israélien utilise donc la prison comme, enfin la prison a un rôle central dans la gestion coloniale de la population de la part de l'État israélien, et c'est aussi un laboratoire où ils mettent en pratique des techniques de répression, des techniques de contrôle, des techniques de torture vis-à-vis de la population qui après peuvent vendre aussi dans le monde occidental quand un prisonnier, Salah Hamouri, un prisonnier franco-palestinien qui a été déporté, expulsé d'Israël, qui lui a enlevé sa nationalité israélienne parce qu'il habitait à Jérusalem et donc l'a pu expulser. Salah Hamouri, il a présenté un film au Bomet. Et il racontait aux prisonniers qu'un jour il s'était réveillé, il n'y avait plus de menton dans la prison israélienne dans laquelle il était. Et ils lui ont dit que tous ces mentons étaient allés faire des formations pour les mentons de Bomet. Donc c'est des techniques, c'est des techniques répressives et coloniales qui sont pratiquées dans les prisons et qui puis sont exportées comme toutes les techniques des répressions, des manifestations, des contrôles qui sont après justement vendus par... les généraux israéliens, il y a tous les années, hein, par exemple au Bourget, quand il y a le salon militaire, il y a des officiers israéliens qui vendent différents types de techniques de contrôle de population, de répression, etc. La prison a un rôle central donc, dans cette gestion coloniale de la population, et en même temps, ça a été réinvesti et redéfini par les prisonniers et les prisonnières palestiniens comme un laboratoire aussi intellectuel, politique, révolutionnaire. Et c'est dans les prisons, à différentes époques de l'histoire, et donc il y a des changements évidemment, mais c'est dans les prisons qui sont nés par exemple les leaders de la révolte de la première intifada, et le lien entre le dedans et le dehors est toujours très fort. Et c'est aussi dans différents moments clés de l'histoire palestinienne, comme quand il y a eu justement cette séparation en 2006 entre le Fatah et le Hamas, le mouvement des prisonniers a sorti un document qui appelait à l'unité au nom de la lutte contre la colonisation et l'occupation et revendiquer leur identité donc des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre dans une sous occupation coloniale avant que toute appartenance partitique.
Comment ça se passe justement comment se font ces liens intérieur-extérieur et qu'est-ce qui permet au sein des prisons aux prisonniers de pouvoir se les réapproprier comme ce laboratoire justement d'expérimentation politique?
Déjà, il y a une grande porosité entre le dedans et le dehors parce que justement, il y a beaucoup de prisonniers qui font des allers-retours en prison. Un des protagonistes de mon livre, Bassim, chez qui j'habite, il a été arrêté 10 fois dans sa vie. Et donc, il a connu un peu toutes différentes époques. Il a été arrêté pendant la première intifada, pendant la deuxième intifada, après les accords d'Oslo, pendant la deuxième intifada, etc. etc. Donc, il y a beaucoup de prisonniers qui rentrent et sortent des prisons. Il y a aussi des moyens qui changent à chaque fois de faire sortir, de communiquer, de faire sortir même des livres, des romans, des lettres entre le dedans et le dehors à travers des voies différentes. Il y a la radio, justement, qui est un rôle fondamental dans les prisons palestiniennes. notamment pour les femmes, parce que les hommes, ils ont pu faire rentrer des téléphones en clandestinité, etc. Les femmes, beaucoup moins. Et depuis quelques mois, il y a des téléphones, enfin des cabines, où elles peuvent appeler une fois par semaine. Mais sinon, la radio qui s'appelle Sotil Asra, que ça veut dire la voix des prisonniers, c'est une radio qui est écoutable donc, dans les différentes prisons israéliennes et où il y a... Enfin, en fait, c'est toute une... C'est pas une émission, c'est vraiment une chaîne radio dédiée aux prisonniers avec plusieurs émissions. Il y a une émission dans laquelle les familles parlent aux prisonniers, beaucoup d'émissions dans lesquelles il y a les anciens camarades des prisons qui leur laissent des messages. Et notamment, par exemple, en 2011, quand il y a eu un grand échange de prisonniers avec Gilad Shalit, les femmes l'ont appris à travers la radio parce que c'est une maman qui a pu leur dire en utilisant un langage en code codifié qu'elles allaient être libérées. Du coup, la radio, par exemple, ça a un rôle très important dans les prisons. Et puis voilà, il y a des voies de communication quand il y a les déplacements des prisonniers dans les tribunaux, etc.
Tu dis dans ton livre que justement la prison c'est vraiment constitutif un peu de la culture palestinienne, musique, poésie, écriture, que c'est vraiment un truc qui est présent. Moi j'avais peut-être juste une question aussi pour poser les choses un peu clairement. Tu parles de gestion coloniale de la population. Mm-hmm. Les prisons où sont enfermés les Palestiniens, les Palestiniennes, c'est pas les prisons où il y a des Israéliens et des Israéliennes, c'est des prisons séparées.
Alors, non, au début, les Israéliens ont construit, ont élargi, ont construit les prisons là où il y avait déjà les prisons du mandat, donc de la colonisation britannique. Ils ont repris des anciens bâtiments et puis ils en ont construit d'autres. Le système israélien pour juger les Palestiniens, c'est un système qui crée et qui a créé une sorte d'apartheid légal parce que sur le même territoire, deux populations sont jugés par deux systèmes juridiques différents. Tous les Palestiniens qui habitent en Cisjordanie ou à Gaza, et même certains Palestiniens qui ont, Palestiniens des 48, donc les Palestiniens qui ont la carte d'identité israélienne, qui habitent dans ce qui est maintenant Israël, sont jugés par la cour militaire, où donc le procureur, les juges sont des militaires. Et alors que les colons et tous les Israéliens, mais donc les colons aussi qui habitent vraiment à quelques kilomètres des Palestiniens, sont jugés par la justice civile. Les Palestiniens peuvent être arrêtés à partir de l'âge de 12 ans. Il y a par exemple le cas d'un jeune Palestinien, Ahmad al-Masra, qui a été arrêté à 12 ans, qui a développé à cause de la prison des troubles psychiques et qui donc, au lieu d'être libéré, a été mis en isolement. Et là, ça fait, il est en prison donc depuis 2016, je pense. Et par exemple, il ne va pas être libéré malgré les appels de la famille. Alors que pour les Israéliens, les enfants israéliens ne peuvent pas être arrêtés à partir de l'âge de 12 ans. Et le taux de culpabilité pour la population pour les Palestiniens, c'est du 99% de la population. Cette cour militaire israélienne s'autofinance, ne dépend pas du gouvernement parce qu'il a développé tout un système d'amendes en plus des peines et un système de négociation. En sachant que le taux de culpabilité est à 99%, souvent il propose une négociation de la peine, un aménagement de la peine, qui donc permet de payer des grandes sommes d'argent pour pouvoir sortir. À certaines époques, par exemple pendant la première intifada, c'était boycotté et donc les gens choisissaient de rester en prison. Au fur et à mesure, surtout quand il y a des arrestations répétées des personnes qui, par exemple, des jeunes qui sont le soutien économique principal de la famille, finalement, à travers aussi des collectes, à travers aussi un système solidaire, les amendes sont payées et donc c'est à travers ces amendes que ce système s'autofinance.
Et généralement, c'est quoi les motifs d'arrestation qui sont présentés devant le tribunal militaire ?
Les motifs d'arrestation sont très variés, peuvent aller donc d'attaque armée à le fait d'avoir lancé des pierres lors des invasions de l'armée israélienne dans les villages, mais ça peut aussi être pour des posts sur Facebook, pour des messages. Par exemple, il y a une femme, Darin Tatour, c'est une poétesse palestinienne mais qui habite en Israël, qui a écrit un poème sur Facebook, je pense, et puis elle l'a diffusé, en tout cas elle a écrit un poème qui s'appelait « Résiste mon peuple ». Et donc elle a passé 8 mois de prison et 3 ans avec bracelet électronique pour ça. Il y a eu des arrestations d'étudiants, il y a beaucoup d'arrestations d'étudiants qui font partie des syndicats d'étudiants, qui font donc des activités avec les étudiants et les étudiantes. Et puis certains sont arrêtés pour faire partie d'organisations, de partis politiques qu'Israël a toujours laissés dans la liste des organisations terroristes, qui sont tous les partis palestiniens, même celui avec qui il a négocié les accords de paix. En fait, ça se base aussi, le système juridique israélien pour juger les Palestiniens, se base sur le système des aveux. Et du coup, en fait, ça suffit que quelqu'un avoue que un autre a participé. Comment dire, ça se base vraiment sur le fait de faire avouer des personnes sur soi-même et sur les autres. Et ça suffit pour mettre quelqu'un en prison. C'est la seule preuve nécessaire. Et donc, il y a des formes de torture, à la fois physique, à la fois corporelle, à la fois psychologique, pour extorquer ces aveux sur la base duquel... Donc les personnes sont arrêtées. Quand j'étais en Abyssal la première fois, ils ont arrêté un enfant de 14 ans. Ils lui ont fait signer, après 2 nuits de torture, un papier marqué en hébreu qu'il ne comprenait pas, dans lequel il avait marqué en arabe que 2 personnes l'attendaient dehors. Et en fait, ce papier en hébreu était des accusations contre ces 2 autres personnes qui ont passé 1 an et demi de prison suite à ça. Et c'est pour ça aussi que la prison et les arrestations, c'est aussi un moyen de récolter des informations sur la population, d'essayer de créer des collaborateurs à travers du chantage, par exemple, en proposant d'autoriser la famille malade à aller en Israël à se soigner, donc de donner le permis, etc. Ou ce qui s'est passé récemment en Naplouse, en faisant du chantage avec des prisonniers, des personnes qui sont homosexuelles, en faisant du chantage, de diffuser... des photos, de diffuser ces relations intimes dans leur propre famille et leur propre société pour obliger quelqu'un à devenir un collaborateur. Et donc, sur les prisons, à partir de 2000, toutes les prisons ont été déplacées sur territoire israélien. Donc tous les Palestiniens sont emprisonnés sur territoire israélien. Bon, déjà ce qui est interdit selon la Convention de Genève, maintenant on n'est plus à ça, mais aussi... Ça fait en sorte que donc toutes les personnes qui doivent aller visiter leurs proches en prison doivent demander un permis pour y aller, un permis aux autorités israéliennes. Et pour des raisons de sécurité, en fait, les hommes entre 15 et 50 ans et aussi ceux qui ont quand même des membres de la famille impliqués dans la politique ou prisonniers sont souvent interdits pour des raisons de sécurité. Donc c'est vraiment un cercle vicieux où... c'est essentiellement les femmes qui peuvent qui donc prennent en charge tout le suivi des proches, à la fois avec les avocats, à la fois donc toutes ces visites organisées par le Croissant Rouge, ce qui veut dire partir à 14h du matin, faire des heures et des heures de route à travers des checkpoints, etc., pour 40 minutes de visite, et qui peuvent être annulées à la dernière minute pour des punitions. Et du coup, toutes les prisons donc, sont en Israël. Il y a des prisons où il n'y a que des Palestiniens, mais il y en a d'autres où il y a des quartiers pour les Palestiniens, des quartiers pour les Israéliens, et notamment les femmes, vu qu'elles étaient moins, elles ont pu être séparées des femmes des droits communs juives israéliennes après des luttes, des grèves de la faim, parce que aussi comme forme de pression, de pression et de punition, ils utilisent, donc par exemple maintenant, il y a, après les événements du 7 octobre, il y a la représentante des femmes prisonnières qui a été mis dans une prison avec les prisonnières israéliennes des droits communs et en isolement de toutes les autres prisonnières palestiniennes. En fait, à partir des années 70, dans les prisons israéliennes, les prisonniers commencent à être de plus en plus nombreux et donc commencent à s'organiser. Au début, c'est pour des luttes pour les conditions matérielles, donc pour avoir des matelas, pour avoir des couvertures, pour avoir surtout du papier et un stylo et des stylos. Parce que par exemple, le premier livre qui a été créé dans les prisons israéliennes, par des Palestiniens, ça a été écrit sur l'emballage de la margarine en utilisant ça comme page et puis en utilisant le seul crayon qui passait vraiment de cellule en cellule et puis a pu sortir clandestinement. Et donc autour de ces luttes pour améliorer les conditions matérielles, ce mouvement des prisonniers et des prisonnières s'est structuré et puis a pu commencer à se structurer, à s'organiser. Donc chez les hommes, par exemple, à partir des années 80, ils ont obtenu la possibilité d'être séparés selon leur affiliation politique. Donc il y avait la cellule du Hamas, la cellule du Front Populaire, la cellule du Fatah, etc. Et puis, en fait, toutes les différentes sections s'organisaient. Il y avait à la fois, ils ont écrit une sorte de règlement, une constitution de la prison. Il y avait différents comités, il y avait à la fois le comité qui s'occupait de l'accueil des prisonniers pour expliquer un peu les règles de la prison, il y avait des élections, il y avait le comité éducatif qui donc où il y avait à la fois des sessions des cours communs pour les prisonniers et pour les prisonnières et des cours spécifiques aux différentes organisations. Et puis il y avait justement l'élection à la fois d'un comité qui jugeait les affaires internes, ce qu'ils appelaient un tribunal révolutionnaire, qui pour ne jamais faire appel à l'autorité pénitentiaire, et pareil, une représentante des prisonnières et un représentant des prisonniers, qui était le seul qui pouvait parler avec l'administration pénitentiaire pour éviter justement une individualisation et vraiment porter une voix collective des prisonniers et des prisonnières. Donc chez les femmes, c'était un peu différent parce qu'en étant moins, différenciation d'affiliation politique était moins forte et du coup elles s'organisaient beaucoup plus ensemble, ce qui a permis par exemple, et ça j'aimerais bien en parler parce que c'est pas très mentionné même dans l'histoire palestinienne, que donc à la fin de la première intifada, il y a eu les accords d'Oslo qui étaient soi-disant des accords de paix mais qui ont juste favorisé la colonisation, etc. Mais donc dans les accords de paix, normalement il y a la libération de tous les prisonniers. Et donc il y a eu dans les cadres des accords d'Oslo toute une négociation pour la libération des prisonniers. La majorité des hommes sont sortis, mais il y a des hommes qui sont restés. Et quant aux femmes, et ça il y a des femmes de toutes les différentes organisations politiques qui étaient présentes à ce moment et qui ont un peu me leur raconté un peu comme un peu de la même façon, les femmes quand le directeur de la prison est rentré dans la cellule et leur a dit: demain, il y aura la libération de toutes les femmes, sauf 5. Et c'était 5 femmes qui avaient tué des soldats israéliens dans différentes organisations politiques. Et donc les prisonnières, elles se sont réunies, toutes appartenances politiques confondues, et elles ont décidé qu'elles n'allaient pas sortir tant que toutes les femmes, enfin si la libération n'était pas pour toutes, parce que c'était une lutte collective et donc la libération devait être collective. Et donc il y avait même des femmes qui étaient condamnées à 15 ans, qui ont accepté de rester et de purger 15 ans pour que toutes les femmes soient libérées. Et ça a été une lutte qui a duré 16 mois, dans laquelle elles se sont enfermées dans les cellules, elles étaient à 30 dans une cellule pour 8, toutes organisations confondues, toutes générations confondues, elles ont pris des décisions de façon horizontale. Là, pour le coup, il y avait moins cette histoire des représentantes, c'était vraiment toujours des discussions entre toutes les différentes appartenantes aux différentes organisations. Et à la fois les Israéliens et à la fois l'autorité palestinienne qui était revenue et qui commençait à asseoir son pouvoir ont essayé de les sortir par la force, mais elles n'ont pas réussi et donc elles ont gagné, et donc elles ont été toutes libérées. Et donc en 97, il n'y avait plus une femme, il n'y avait plus personne, plus aucune femme qui était dans les prisons israéliennes. Et bah, elles disent, beaucoup d'entre elles disent, bah, si les hommes avaient suivi notre, bah, notre exemple, peut-être bah, qu'il n'y aurait plus de prisonniers, en tout cas, après les accords d'Oslo. Après, évidemment, les arrestations ont repris très vite, et pendant la deuxième intifada, il y en avait... Alors, dès le 8 octobre, il y a eu des, bah, il y a eu une, bah, des formes de punition collective de différents types. Il y a eu d'abord une attaque des forces spéciales israéliennes dans la prison, donc, où donc, ils ont frappé les femmes prisonnières, qui sont toutes en ce moment donc, dans la prison de Damon, que c'est une prison qui était une... un dépôt de tabac dans à l'époque de la colonisation britannique, qui donc n'est pas du tout faite pour accueillir des êtres humains, parce qu'elle est faite pour rester humide. Et donc c'était une prison qui avait été fermée pour raisons sanitaires, mais a été réouverte pendant la deuxième intifada parce qu'il y avait trop de prisonniers. Et donc, suite à une révolte des femmes qui ont protesté, parce que en fait, il y avait dans la prison précédente, il y avait des caméras qui étaient allumées constamment dans tous les espaces, même aux toilettes, même dans la cour, et que donc les femmes voilées ne pouvaient jamais enlever leur voile parce qu'elles savaient que derrière les caméras il y avait des hommes, et donc même, enfin, elles pouvaient pas, elles allaient pas aux toilettes, elles enlevaient jamais leur voile, donc elles ont protesté pour qu'on fasse une punition collective, elles ont toutes été amenées à Damon. Donc dans cette prison, les soldats ont agressé les femmes et puis ont isolé la représentante qui a été mise dans une autre prison en isolement, donc isolée de toutes les autres femmes, mais dans une prison, je pense, dans la section où il y a les détenues israéliennes des droits communs. Et en même temps, enfin, en fait, je pense que cette attaque envers les prisonniers et les prisonnières, c'est aussi... ça rentre évidemment dans une forme de punition collective. Mais c'est aussi parce que un des objectifs de l'attaque qui a eu lieu le 7 octobre, de l'opération qui a eu lieu le 7 octobre, c'était l'échange des prisonniers et des prisonnières. Et donc échanger les prisonniers israéliens qui sont en ce moment dans la bande de Gaza avec tous les prisonniers et les prisonnières palestiniens. Et il faut savoir que dans tous les échanges des prisonniers, les femmes sont toujours prioritaires par n'importe quelle organisation soit à la base de cet échange. Donc peut-être, enfin ça je sais pas, mais peut-être c'est aussi pour ça que la première forme de punition collective est tombée directement sur les prisonnières. Et évidemment sur les prisonniers, ils ont été privés d'électricité et d'eau. Il y avait des prisonniers qui étaient pris dans des chambres de torture on leur a cassé les jambes et les bras. Il y en a qui revenaient de la torture et ses camarades ne pouvaient... Il était méconnaissable, enfin, ne reconnaissait pas son visage. Et il y a aussi, depuis le 7 octobre, il y a eu 1220 arrestations. Donc il y a des campagnes d'arrestation très très larges en Cisjordanie. Les prisonniers de Gaza, tout comme les travailleurs de Gaza qui avaient des permis pour travailler en Israël, les travailleurs de Gaza qui avaient des permis pour travailler en Israël, ont été arrêtés, mis en prison, juste parce qu'ils étaient des Gaza. Il y en a qui se sont réfugiés en Cisjordanie, mais j'ai l'impression que certains ont été arrêtés par l'autorité palestinienne, parce que j'ai oublié de dire que le produit des accords d'Oslo, c'est aussi la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et les Israéliens, ce qui veut dire vraiment... une collaboration, il y a des prisonniers qui sont arrêtés d'abord par l'autorité palestinienne et puis donnés aux Israéliens, et donc il y a toute cette coopération sécuritaire contre laquelle beaucoup de Palestiniens dénoncent, contre laquelle beaucoup de Palestiniens se battent. Il y a eu beaucoup d'arrestations des membres du Hamas, même avant le 7 octobre, de la part de l'autorité palestinienne. Enfin, j'ai lu, en tout cas, sur des médias arabes, que certains de ces travailleurs de Gaza ont été arrêtés aussi par l'autorité palestinienne. Les deux dernières années ont été des années où, enfin les années les plus meurtrières depuis la deuxième intifada en Palestine, il y avait des larges campagnes d'homicides extrajudiciaires, enfin d'exécution extrajudiciaire.
Sans jugement.
Sans jugement, ouais. C'était plutôt du coup tuer ceux qui étaient considérés les leaders des différentes formes d'organisation ou des résistances. Et aussi un déchaînement des colons, notamment avec le nouveau gouvernement qui est fasciste et sioniste comme tous les autres, mais le déclare et le revendique plus clairement. À Gaza, depuis le 7 octobre, bon, là, c'est pas pour donner des chiffres, mais en tout cas, il y a eu 4000, environ 5000 morts, sans compter tous les corps qu'on n'a pas encore pu trouver sous les décombres. Et,
sachant que là, on est lundi 21 octobre, 22 octobre.
Oui. Et
23 octobre, lundi 23 octobre. Bon. Ça, c'est un peu la situation là-bas. Et je pense que peut-être as suivi un peu ce qui s'est passé en France en termes de soutien et de comment aussi tous ces soutiens-là ont été aussi réprimés.
Oui, en France, il y a une répression qui a quand même... dans les dernières années, elle a toujours été présente. Je me souviens, la dernière manifestation en soutien des Palestiniens bombardés justement à Gaza avait été interdite et violemment réprimée. Mais là, je pense qu'il y a une nouvelle étape qui a été franchie, vraiment de répression de toute forme, de solidarité et de soutien à la Palestine, au peuple palestinien, aux formes de... Mais, même pas, enfin là ça va même pas aux formes de résistance du peuple palestinien, enfin c'est vraiment, il réprime même le côté un peu victimisant humaniste de il y a 4000 morts, enfin c'est en fait
une manifestation pour la paix, quoi.
Oui, c'est ça, c'est
interdit, quoi.
Il y a eu plusieurs rassemblements qui ont été appelés, qui ont été interdits. Il y a eu plusieurs arrestations dans lesquelles des jeunes femmes ont passé 24 heures ou 48 heures de garde à vue. Pour certaines d'entre elles, il y a eu des perquisitions chez elles, en essayant clairement de faire le lien et dans l'interrogatoire et dans les perquisitions entre le soutien à la Palestine et une forme de radicalisation, enfin en faisant vraiment le parallèle Daesh, Hamas, c'est la même chose, et du coup l'apologie du terrorisme était toujours sortie comme
oui, c'est que vous êtes en train de construire une narration, ouais, autour des personnes en prenant en photo des Corans, des religieux pour construire un peu une narration.
Et aussi dans le milieu, en vrai aussi dans le milieu académique, il y a des formes de censure très graves qui viennent d'être dénoncées dans un document qui vient de sortir, où des chercheurs et des chercheuses ont été dénoncés par les collègues, risquent leur poste pour avoir relayé des communiqués de soutien, pour s'être exprimés sur la Palestine en soutien du peuple palestinien. Et aussi il y a des formes de censure pas non plus très voilées qui vient vraiment au niveau de l'université, où il y a une sorte d'appel à délation des initiatives qui pourraient soutenir, qui pourraient être assimilées à de l'antisémitisme et à un soutien et à l'apologie du terrorisme. Donc il y a même ce qui n'est pas le plus important, mais qui est quand même révélateur de ce qui se passe aussi dans la répression, qui se passe aussi dans la rue, donc des personnes qui s'expriment sur la Palestine et qui sont accusées, alors qu'ils le font en connaissant l'histoire, en connaissant le contexte, etc., sont accusées d'apologie du terrorisme. Et tel est le cas aussi de Mariam Aboudak, qui était, elle n'est pas, c'est une femme palestinienne de Gaza. Elle avait été invitée depuis longtemps pour faire une tournée en France dans laquelle elle allait parler de la situation à Gaza, de la situation des femmes, parce qu'elle a créé une association qui s'occupe et qui soutient les femmes prisonnières, justement, à Gaza. Mariam Aboudak, c'est une résistante, une militante de Gaza qui appartient au FPLP, au Front Populaire de Libération de la Palestine. Donc elle est arrivée avant le 7 octobre. Elle a été accusée dès son arrivée de risque de, enfin, d'être une terroriste, de provoquer des risques à l'ordre public, etc. Donc à partir de cet octobre, il y a eu plusieurs rencontres qui ont été annulées par les mairies sous pression du préfet dans différentes villes, mais elle a toujours réussi à en faire, à le faire devant, à le faire dans un parc à côté. Récemment à Marseille, il y avait une conférence qui avait été prévue dans une salle. La salle, sous pression de la préfecture de menace des troubles à l'ordre public, a interdit de la conférence. Et donc, il y a une autre salle qui nous a été proposée par un prêtre qui avait été en Palestine. Et donc, la conférence a pu avoir lieu. Et le lendemain, Maria Maboudak devait aller à Toulouse pour faire une autre conférence qui avait, là aussi, déjà été interdite. Avec, là, pour le coup, la mairie qui est jumelée avec Tel Aviv, avait fait un arrêté pour interdire à la maison de quartier d'accueillir Maria Maboudak et de projeter ce film Yalla Gaza, dans laquelle elle était une des femmes interviewées dans le film. L'association à Toulouse a décidé de maintenir juste la projection du film. Ça a été interdit aussi, la projection du film, avec plein de cartes CRS qui ont entouré l'endroit où le film devait être projeté. Du coup, le matin, à 6h du matin, quand Mariam devait aller à Toulouse, elle a été arrêtée en sortant de la maison où elle avait été hébergée. Elle a été amenée au commissariat de Noailles. Elle a été interrogée pendant des heures. Quand elle est sortie, tout le monde lui demandait comment ça allait. Elle leur a dit qu'en fait, elle avait été arrêtée quand elle avait 15 ans par les Israéliens. Elle avait passé 2 ans dans les prisons israéliennes. Et donc, c'était pas forcément l'arrestation ici, enfin, une petite garde à vue qui allait lui faire peur. Mais ce qu'elle n'arrête pas de répéter, c'est vraiment cette absence de liberté en France à laquelle elle ne s'attendait pas. Et donc, elle disait, on va organiser un combien mouvement de solidarité pour les Français, pour les aider à se rebeller contre leur gouvernement. Donc, elle a été arrêtée suite à, justement, une arrêté d'expulsion signée directement par Darmanin, qui citait des propos de Mariam qui considérait comme... pareil, comme sinon une apologie au terrorisme, mais quelque chose qui allait alimenter cette tension dans les climats actuels en France, dont le fait qu'elle disait qu'il faudrait faire pression sur les gouvernements français pour qu'ils fassent pression sur le gouvernement israélien pour demander au moins un cessez-le-feu, pour arrêter l'occupation, etc., qu'il faudrait parler plus de Gaza. Et donc c'était des phrases citées par Darmanin pour justifier son expulsion. Et dans l'arrêté, il mentionnait aussi le professeur qui a été tué à Arras, dans les réseaux, comme ça.
Gros package, voilà, gros combo.
Mais la raison qui lui a permis de faire ça, c'est le fait que le Front Populaire de Libération de la Palestine, depuis les années 70, il est encore... dans la liste des associations considérées comme terroristes par l'Union Européenne, par les États-Unis et par Israël, alors qu'ils font partie de l'OLP, alors avec qui, encore une fois, Israël a signé des accords de paix reconnus par les États-Unis, etc., etc. Mais donc ça, c'était la raison. Donc Mariam, elle a été assignée à résidence dans un hôtel. Elle devait pointer au commissariat. Avant-hier, le tribunal administratif de Paris, auprès duquel ils avaient fait recours, a dit que l'expulsion, a annulé l'expulsion en disant que c'était une grave atteinte à la liberté d'expression, etc., etc. Et Darmanin, évidemment, il a fait appel, tout en sachant que donc Darmanin, dans l'arrêté d'expulsion, il voulait l'expulser à Gaza, parce que Mariam, elle vient de Gaza. Elle a perdu, enfin en tout cas hier, mais peut-être cette nuit plus, elle a perdu pendant cette semaine 30 membres de sa famille sous le bombardement. Et sa maison dans laquelle elle avait écrit à la fois ses mémoires, ses travaux, elle a été bombardée aussi. Mariam, elle veut, enfin en tout cas, elle veut pas rester en France. Elle veut rentrer à Gaza, et, mais là, c'est la police qui a son passeport aussi.
Voilà, donc c'était l'entretien avec Asia Zaino qui nous parlait de son livre « Des hommes entre les murs » qui est sorti en 2016 dans les maisons d'édition Agone, qui est toujours disponible bien sûr. On vous rappelle que cette interview a été enregistrée lundi dernier, le 23 octobre, donc les chiffres qu'elle donne sur les morts dans la bande de Gaza et les arrestations en Cisjordanie, ben on imagine qu'ils ont beaucoup évolué depuis. Voilà. Et du coup, on a oublié dans l'interview, c'est pas dit dans l'interview, mais on voulait terminer avec cet extrait un extrait de son livre, qui est ces deux personnes qui discutent et. Un qui dit qu'il n'aime pas les journalistes et qu'il déteste les journalistes et les caméras. Et l'autre lui répond « Tu dois juste raconter ce qui s'est passé. N'aie pas peur, c'est une autre façon de lutter. Il faut que tu apprennes à parler, à t'exprimer, à raconter au monde ce qui se passe. » Et on se disait que c'était une conclusion pas mal et qui est aussi valable pour nous, ce qu'on fait à la courte échelle. Et voilà, et rappeler à tout le monde et aux prisonniers notamment, prisonnières, que bah, le témoignage, c'est important et qu'en fait, il faut parler pour faire un peu sortir toutes les réalités de ce qui se passe. On vous rappelle aussi que toutes les émissions, elles sont réécoutables sur le site de Radio Galère, en podcast, téléchargeables, sauf maintenant où le site est en maintenance. Mais en tout cas, vous pouvez réécouter sur radiogalère.org.
Et évidemment, il y a eu pas mal de manifestations en soutien au peuple palestinien et pour la fin du génocide. Donc on a vu de belles images avec beaucoup de monde, donc que ce soit à Berlin, en Inde, à Londres, aussi à New York. Malheureusement en France, donc il y a toujours ce mouvement du gouvernement pour interdire les manifestations en soutien au peuple palestinien et agir pour la répression de ces manifestations. Donc hier à Paris, c'était en fait une énorme menace hein, qui s'est faite. Pendant plusieurs heures, les personnes qui manifestaient ont été bloquées. Et pour sortir de cette menace, il fallait présenter des papiers d'identité. La plupart des personnes ont aussi pris... une bonne partie des personnes a pris une amende donc de 135 euros, je crois. Et donc, ça se solde à quelques 200 000 euros pour la préfecture. Donc, c'est génial. Bravo à eux. Par contre, à Marseille, elle était autorisée. Donc, il y a quelques 2000 manifestants et manifestantes qui ont proclamé leur soutien au peuple palestinien. Voilà, je crois que sur ce sujet, on a terminé pour ce soir, en tout cas. Bien sûr, on continuera d'en parler parce que c'est vis-à-vis de ce qu'il se passe. J'avais juste une brève, moi, concernant donc, ce qu'on a appelé le procès, ou ce qui s'appelle encore le procès des activistes de l'ultra-gauche. Donc, il y a pas mal de comptes rendus du procès qui sont en ligne sur Paris Lutte Info, et on vous invite à aller les lire parce que c'est assez édifiant. Et ça montre bien que c'était plus un procès de l'idéologie que d'autre chose, de toute façon. Avec notamment des questions complètement hasardeuses ou quoi sur les régimes alimentaires des personnes, les allées et venues, etc. Et un gros focus sur les trucs de Airsoft, là. Malgré tout ça, évidemment, le procureur souhaite de la prison, notamment pour Florian D, contre qui la procureure a requis 6 ans ferme avec mandat de dépôt. Et pour les autres prévenus, c'est de la prison aussi avec sursis. Donc le délibéré, il a été décalé au 22 décembre simplement. Donc on doit attendre encore un peu.
Donc pour la suite, on va juste faire un petit point agenda de ce qui va se passer dans les prochains temps. On a juste 2-3 événements. Donc après-demain, mardi 31 octobre, il y a des rencontres à l'Hydre au Mille-Têtes. C'est au début de la rue Saint-Savournin. Donc c'est vers 19h-20h et c'est des rencontres avec Elsa Deck-Marceau, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Faire justice ». Le sous-titre, c'est « Moralisme progressiste et pratique punitive dans la lutte contre les violences sexistes ». Donc il y a cette discussion-là, on vous invite à y aller. Après, il y a dimanche 5 novembre, il y a la commémoration des 5 ans des effondrements de la rue d'Aubagne. Donc le rendez-vous, il est donné par le collectif du 5 novembre au 65 rue d'Aubagne à 9h05. Il y aura le matin, il y aura une minute de silence, un petit déj et des prises de parole. C'est sans logo ni drapeau, ils annoncent. Après, on peut aussi parler d'une manif qui est prévue le même jour à 16h au Courju. Donc c'est une manif anti-gentrification et anti-Airbnb. Et le lien n'est pas fait clairement avec les 5 ans de la rue d'Aubagne. Mais on peut le faire et...
Nous, on le fait.
Ouais, nous, on le fait en tout cas. Voilà. ce sera tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres événements.
Non, je crois que c'est bon. Pour terminer, on a un rap palestinien donc, qui nous a été proposé par Asia. Voilà, on vous laisse écouter ça. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Salut.
Salut.
Bonne soirée.
Calme bébé, je sens pas, mais j'ouvre la web. قلبي بحبش الشرطة كم اشوف لو واحدة وبلش يعوّب اقول له وكهدا بس قلبي خيوش تفهمه شو بحكي قلبي بحبش الشرطة وكل ما يشوف لو واعة ويحطني بورطة بس دلت تدبر قد شيء رسوله بنبق ايو اسحك تكع في الهو في اشتقى في اشي انا شبعت كد ما كانت دكات بنعكس دتعك بنعضك اوعك تغلط خطط على الخطة في حارس شاطر شان صدك قد جاي بنبق بس تخربط بس دوت تدبر هل يستوي كل مين رابر لا يستوي كل مين انتج لا يستوي كل مين اصدر في الحسب خالي بندقق في ناس تسوي ناس اكتر في الجمهور عالمسرح بنبحلك مالي طالع بيك منظر كلبي بحبش الشرطة كل ما اشوف لواحة وهو انت مالك ومالها القصة انا راسي بلف صيدا وعالعمية بدور بلاقيش اشي بزق بعترف بالجشع انا بترزق ببخلش على عدا ولا عدا في مكان معزول مترف زواريب وزوق والدنيا ضباب وهوى في ناس تسأل عن شاب ما برنش تلفونه الولع عمره طفى أبصر واختفى وبحبش تحكي شو ما تحكي أنا طاي 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 بحبش تحكي ده كسرت قلبي اي 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 كله بنزل شربة ماي خايف من الشمس بتخبى في الفاي بيش طايق البشا فبضلني في البيت وإذا حدا قرب أنا طايته في باي طايت اوف باي اذا حدا قرب انا طايت اوف باي كرفت البلد بنزل بسكم في الاسكايت باينه كمان جدندا فبا رأسك انغام تتناغم مع امواج رأسك في ظلامك ببكى انا الضاي رسمي اسمي اصلا هو عداي لأشع عن عرضك خليك كثير تحلف بعرضك انا موش خاو عليك برضك خذ زياد من البيت شعر برضك زعلني بزعل رضيني برضا عطلوع المشتل كل شي شفته بعيناي كل شي عملته بايداي قلبي بحبش الشرطة كم اشوف لو واحدة وبلش يعوّب اقول له وكهدا بس قلبي خيوش تفهمه شو بحكي قلبي بحبش الشرطة وكل ما يشوف لو واعة ويحطني بورطة بس دلت تدبر
Mégahertz en Marseille.